France Culture.
France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Ce qu'ils nous apprennent à faire, c'est de nous faire passer pour quelqu'un qui peut résoudre n'importe quel problème dans la vie de la victime. Ils nous donnent une liste d'instructions, étape par étape, à partir de comment se présenter, jusqu'à les faire investir.
Il y a les arnaques en ligne, le trafic de drogue, le trafic des femmes. On se demande quand ils vont s'arrêter. Ils détournent déjà des milliards. Quand est-ce que ce sera assez pour eux? Combien de personnes ils vont assassiner?
Toute entité qui considère qu'elle a subi un préjudice en Birmanie à cause de ses fraudes en ligne peut venir nous proposer son aide. Aucun pays ne peut arriver à lutter contre un tel phénomène seul.
C'est une opération d'une ampleur inédite, menée conjointement par la Thaïlande, la Birmanie et la Chine. Elle vise à libérer des milliers de travailleurs exploités dans des centres d'arnaque en ligne. Cette main-d'œuvre captive opérait dans le sud-est de la Birmanie, près de la frontière thaïlandaise, dans ce que l'on peut qualifier d'usine à cyber-escroquerie. Plus de 7000 étrangers d'une trentaine de nationalités, dont 4800 Chinois, espèrent maintenant retrouver leur pays d'origine. Mais cette exfiltration ne mettra pas fin à un trafic qui génère des milliards de dollars chaque année. Les centres d'escroquerie en ligne prospèrent aux frontières de la Birmanie, dans cette zone contrôlée par des groupes armés indépendants du pouvoir central. Des triades chinoises ont installé d'immenses complexes de casinos et restaurants destinés à l'origine aux touristes chinois. Protégées par d'épaisses murailles et gardées par des hommes en armes, elles sont aussi devenues des prisons pour de nombreux travailleurs étrangers. Attirés par des offres d'emploi alléchantes, ils se sont retrouvés pris au piège, contraints de travailler 18 heures par jour pour attirer dans les filets des mafias les internautes occidentaux. Pour le marché francophone, une main-d'œuvre originaire de pays comme le Maroc ou le Sénégal est utilisée. En cas de résistance, les employés sont privés de nourriture, battus, torturés et certains disparaissent. Cyberfraude et esclavage moderne, le business florissant des mafias chinoises, c'est un reportage signé Carole Izou. Bonjour Carole.
Bonjour.
C'est une grosse enquête que vous avez menée et que vous partagez avec nous aujourd'hui. Alors racontez-nous comment est-ce que vous avez procédé?
Alors c'est une enquête qui a duré plus d'un an. J'ai travaillé avec une consoeur qui s'appelle Laure Siegel et on commençait à entendre parler de ces centres, petit à petit, par des gens qui en étaient sortis, par des gens aussi qui avaient un proche qui avait disparu. Et je dois dire, notamment dans les communautés africaines de Bangkok, surtout, c'est passé d'abord par les communautés africaines de Bangkok, et puis des femmes thaïlandaises aussi qui avaient été trafiquées, notamment pour du travail du sexe, à l'intérieur de ces centres, puisqu'il y a toutes sortes de trafics. Et petit à petit, on a contacté des ONG, des ambassades, des services de police, et on a pu rentrer en contact avec des gens qui étaient à l'intérieur de ces centres. Et je voudrais souligner, avant qu'on entende le reportage, le courage des gens qui, malgré l'interdiction très stricte et malgré les risques, eh bien, ont pu nous faire parvenir des vidéos. Et tous les sons qu'on va entendre dans le reportage, quand on parle des sévices, par exemple, infligés, les électrocutions, les passages à tabac, ce sont des vraies électrocutions, de vrais passages à tabac. Ce sont soit des vidéos qui ont été prises comme ça de façon clandestine, soit qui ont été utilisées pour demander des rançons aux familles.
Alors la lutte contre ce type de criminalité se fait à l'échelle internationale. Nous entendrons tout à l'heure Stéphanie Baroud qui travaille à Interpol, l'organisation internationale de police criminelle. Et puis nous reviendrons en France avec Jérôme Notin, directeur général de la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en studio avec nous. Votre mission à travers cette plateforme, c'est avant tout d'assister les victimes d'actes de cybermalveillance. Expliquez-nous exactement.
D'assister les victimes françaises d'actes de cybermalveillance à travers en particulier un nouveau dispositif que nous avons lancé le 17 décembre dernier qui s'appelle 17cyber.gouv.fr, dont j'espère nous aurons l'occasion de reparler. Et puis également deux autres missions complémentaires. Une première mission donc de prévention, c'est-à-dire que nous produisons beaucoup de contenu de prévention, très accessible au grand public, aux chefs d'entreprise et aux collectivités qui sont nos publics. Et puis une mission d'observation de la menace qui va alimenter les deux premières missions.
Nous sommes tous de potentielles victimes de cybermalveillance. On y reviendra ensemble tout à l'heure. Mais commençons par voir où et comment ces arnaques sont élaborées et également à quel prix humain avec le reportage de Carole Izou.
À la frontière entre la Thaïlande et la Birmanie, Mesot semble une bourgade endormie au bord de la rivière Moy. Mais depuis quelques années, c'est la plaque tournante d'un immense trafic d'êtres humains. Visible depuis les collines environnantes, des rangées d'immeubles anonymes côtoient des casinos éclairés par des néons de couleur, le tout entouré par de hautes palissades. Les mafias chinoises se sont installées avec l'accord des groupuscules armés qui tiennent la zone dans une Birmanie gangrénée par la guerre civile. Aujourd'hui, la femme d'un général d'un de ces groupes, la DKBA, est venue rencontrer des membres d'ONG qui œuvrent à la libération des prisonniers des centres. De lourds bijoux en or affichent son statut, les dents tachées par le rouge du bétel. Elle ne sait plus très bien vers qui se tourner.
Ils sont en train de devenir incontrôlables. Ça devient le problème de tout le monde. Il faut faire quelque chose. Ils ont réussi à rallier tout le monde. Ils paient des pots de vin de tous les côtés, à la police thaïlandaise, à tous les groupes armés en Birmanie, à tout le monde. Donc personne n'ose rien leur dire. Mon mari est l'un des rares à dire qu'il faudrait que ça s'arrête, qu'il y a trop d'argent sale, trop de gens qui disparaissent, que ce sont des criminels. Nous, on a une conscience politique, mais eux, ce sont des mafieux. On ne peut pas continuer à tolérer ça sur notre territoire. On sait très bien ce qu'il se passe là-bas. On voit tout, on est sur place. Mais ils sont intouchables à cause de leur argent. Je suis folle de vous dire ça, je vais avoir de gros problèmes. On se demande quand ils vont s'arrêter. Ils détournent déjà des milliards. Quand est-ce que ce sera assez pour eux? Combien de personnes ils vont assassiner? Il y a les arnaques en ligne, le trafic de drogue, le trafic des femmes. On voit bien tout ce qui se passe. Ils s'engagent même pas. Ils se comportent comme si c'était leur pays, leur petit territoire indépendant. En fait, ils voudraient qu'on s'en aille, qu'on leur laisse le territoire. Mais c'est la Birmanie ici, pas le royaume des mafieux chinois. Ils ne comprennent pas grand-chose à la situation politique non plus. Ils s'en fichent. Les policiers thaïlandais ne font rien, ils touchent de l'argent et parfois, ils viennent s'amuser. J'espère que je ne vais pas avoir de problème de vous parler comme ça. C'est dangereux. On a très peur, on a peur des hommes d'affaires, car ils sont prêts à tout. Pour eux, il n'y a que l'argent qui compte.
Selon les Nations Unies, près de 300 000 personnes travaillent dans ces centres en Asie du Sud-Est, aux zones frontières de la région du Triangle d'Or, entre la Thaïlande, la Birmanie, le Laos et le Cambodge. En majorité des citoyens chinois, mais aussi des Indiens, Népalais, Philippins, des Sénégalais et Marocains travaillent à destination du marché francophone. Au moins un citoyen français y a été enfermé. Alertées, les ambassades sont impuissantes à faire sortir leurs ressortissants. Sur le plan diplomatique, le dossier est explosif à cause de l'implication de certains policiers locaux. Elle s'appuie donc sur des négociateurs indépendants qui agissent en toute discrétion, comme Samy, un négociateur birman qui vit depuis toujours à la frontière, parle 5 langues et dispose d'un solide réseau parmi les militaires côté birman. Et Jude, un Australien qui a lui aussi grandi dans la région. La situation est urgente. Il y a quelques jours, ils ont reçu un appel au secours vidéo d'une jeune Marocaine, Meriem, emprisonnée depuis 2 mois.
Le garde vient de sortir, mais ils peuvent entrer quand ils veulent. Je ne veux pas qu'ils voient que je filme, mais je prends le risque. Car il ne me reste pas beaucoup de temps. Vraiment pas beaucoup de temps. Les Chinois peuvent entrer à tout moment et me tuer. Il y avait 2 filles chinoises dans la chambre d'à côté. On vient de les retrouver assassinées. Elles vivaient ensemble dans la même chambre. Ils les ont tuées et ils les ont sorties dans des sacs plastiques comme des déchets.
Actually,
Ici, il y a des filles de différentes nationalités.
Girls from Russia,
Russie,
girls from Tajikistan,
Tajikistan,
Uzbekistan,
Uzbekistan,
Turkmenistan,
Turkménistan,
also from
et aussi,
Moldovia,
je crois, Moldavie,
and Moroccans,
des Marocaines aussi.
I just want these videos,
je veux que ces vidéos,
in case,
si jamais,
in case I die,
si jamais je meurs,
I want these videos to be all over
je veux
the world.
Que le monde entier sache ce qui se passe ici.
A matter of humanity.
Parce que c'est une people question de
getting,
respect de l'humanité. Les gens sont torturés,
raped,
violés,
killed,
assassinés.
Sami est parvenu à contacter les services de sécurité birmans de l'immeuble où Meriem est enfermée, qui ont négocié sa libération avec les patrons chinois. Sa sortie est décidée, son père est contacté au milieu de la nuit. Il doit fournir une lettre au négociateur pour confirmer qu'ils ont bien sa confiance. L'ambassade, elle, ne peut pas s'engager par écrit.
Oui, oui, c'est la nuit, j'étais endormi. Oui, c'est très bien. Alors, je vais écrire une lettre à l'ambassade. Et je vais vous l'envoyer.
Pour faire sortir Meriem, la marge de manœuvre est étroite. Selon de nombreux témoignages, les services de police à Messot sont largement impliqués dans les centres de fraude, certains commissariats n'hésitant pas à revendre les fugitifs aux mafieux chinois. Parfois, les anciennes victimes sont détenues à cause du dépassement de leur visa de séjour ou jugées coupables d'avoir réalisé des arnaques en ligne et condamnées à des peines de prison. Le négociateur australien souhaite donc faire sortir Meriem discrètement, sans faire de déclaration à la police thaïlandaise.
Lorsque j'ai discuté avec son père et avec l'ambassade du Maroc, ils m'ont dit qu'elle n'a qu'à aller se présenter à l'immigration et raconter son histoire. J'aurais dit que non, surtout pas, sinon elle risque de finir en prison. Ils ne comprennent pas combien la situation est compliquée à Messot. La ville est gangrénée par la criminalité. Je pense qu'on peut la sortir facilement de Messot parce qu'elle passe pour une Européenne. Ils ne poseront pas de questions. Le mieux, c'est de la sortir tout de suite et l'emmener directement à Bangkok. Elle pourra se reposer quelques jours. Je vais discuter avec son ambassade, mais à mon avis, la meilleure couverture pour elle, c'est que son père vienne la chercher à Bangkok. Et quand ils se présenteront à l'immigration pour justifier son dépassement de visa, elle dira qu'elle est tombée amoureuse d'un Thaïlandais, qu'ils vivaient ensemble, donc elle n'a pas de réservation d'hôtel. Mais que le type a fini par la frapper et la chasser de la maison. Elle ne savait pas où aller, elle a honte, elle n'a plus de titre de séjour, elle a appelé son père pour qu'il vienne la chercher. Elle était amoureuse. Et maintenant, son père la ramène à la maison et va s'occuper d'elle. Vous voyez, on a déjà utilisé ce genre d'histoire dans un dossier similaire et ça a très bien marché. Ça avait attendri des policiers. Il y a eu une affaire du genre à Phuket. C'est le genre de récit qui leur inspire de la bienveillance.
Le plan est donc décidé. Nous nous mettons en route avec Sami. La libération de Meriem est imminente.
Bon voilà, nous sommes juste à la frontière. Je viens d'avoir sa famille au téléphone. J'ai parlé avec son père. Je lui ai annoncé qu'ils allaient la libérer. Là, nous sommes en route pour la voir, pour aller la chercher.
Mais en chemin, coup de théâtre. La représentante d'une ONG thaïlandaise qui travaille avec Sami n'est pas du tout d'accord avec le plan d'une opération clandestine et décide de prévenir la police. Elle pense que c'est la seule façon de rendre la situation de Meriem légale et d'ouvrir la voie vers une libération massive des otages des centres. Toute l'opération est menacée. Une violente dispute éclate entre le négociateur australien et l'ONG thaïlandaise.
Quand ce sera votre dossier, vous pourrez faire ce que vous voulez. Ce n'est pas votre dossier. Vous n'aviez pas le droit de faire ce que vous avez fait. C'est un comportement inacceptable. Vous auriez dû me consulter avant. Les bonnes intentions, ça ne sert à rien quand les gens finissent en prison. Est-ce que vous savez combien de victimes de trafic d'êtres humains ont été acceptées comme réfugiés après être passées par les circuits officiels ? 24 personnes. 24 en 2 ans. Sur les centaines de personnes qui sont sorties des centres, ça représente moins de 12% des demandes. Personne ne va venir de Bangkok pour vous aider, ne rêvez pas. Nous avons essayé de passer par les circuits officiels. Écoutez-moi bien, si cette jeune fille finit en prison, ce sera de votre faute. Et même si elle n'est pas jetée en prison, qui va s'occuper d'elle pendant toute la durée du processus? Est-ce que vous allez payer pour ses frais d'avocat, pour son billet d'avion de retour chez elle, pour s'assurer qu'elle a à manger tous les jours, plus que les 40 centimes d'euros de nourriture par jour prévus par le système Thaï? Tous les officiels sont corrompus à Mae Sot. Vous ne pouvez rien y faire. Elle avait le choix. C'était à elle de faire ce choix. C'était son choix, pas le vôtre.
Il faut désormais faire vite. Aller chercher Meriem avant que les policiers thaïlandais ne la recherchent. En fin d'après-midi, un passeur la dépose au bord de la rivière. Elle est maigre, désorientée, mais vivante. Inquiet pour son sort, Jude ne la laisse pas nous parler et l'embarque tout de suite dans une grosse cylindrée noire, direction Bangkok. Deux jours plus tard, elle est à Rabat en famille. Elle ne veut plus parler de cette histoire. Quatre de ses camarades d'infortune sont emprisonnés au Maroc pour avoir participé aux opérations de fraude et incité d'autres Marocains à venir travailler dans les centres. Pour pouvoir obtenir un témoignage de la vie dans ces centres, nous nous tournons donc vers une autre victime, Aïda, éthiopienne, 29 ans. Elle en est sortie il y a 6 mois, mais au contraire de Meriem, sa famille n'a pas les moyens de lui payer un billet d'avion et surtout, elle ne veut pas rentrer en Éthiopie, où la minorité ethnique dont elle est issue, les Amara, est persécutée. C'est d'ailleurs pour cette raison, pense-t-elle, qu'elle a été contactée par les recruteurs chinois qui visent en priorité la jeunesse africaine éduquée, mais sans perspective d'avenir, au sein des minorités impliquées dans des conflits ethniques. Elle a très peur de nous parler, très peur que ses anciens bourreaux la retrouvent et nous donne rendez-vous dans un lieu public, un parc fréquenté par les étudiants.
Je cherchais un travail qui me permette de sortir du pays. Une connaissance m'a mis en contact avec un Éthiopien qui travaillait là-bas. Il m'a envoyé vers une recruteuse de leur réseau, une femme du Laos. On a eu un entretien sur Telegram, mais elle m'a juste demandé si j'avais un diplôme universitaire dans n'importe quel domaine, si je parlais anglais et si je savais me servir d'un ordinateur. Elle a dit qu'il y avait des postes à pourvoir au service client et en vente, marketing. J'ai choisi vente et marketing. Je lui ai demandé si c'était un travail légal. Elle m'a répondu que oui. À 100%.
Mais c'est étrange de poser cette question dans un entretien d'embauche. Pourquoi demander si c'était légal?
Parce qu'elle a mentionné que c'était une compagnie de crypto-monnaie. Moi, j'avais surtout une question. Je savais qu'il y a énormément de main-d'œuvre en Asie. Alors je me demandais pourquoi ils avaient besoin d'aller recruter si loin, jusqu'en Afrique, si vraiment ils étaient prêts à payer plus de 1000 dollars par mois. Elle m'a dit que la population locale ne parlait pas bien anglais, qu'ils recrutaient à l'étranger, surtout pour les compétences en anglais. Ça m'a semblé logique à ce moment-là. Le salaire variait entre 1200 dollars par mois jusqu'à 5000 dollars selon vos performances. Pour moi, et pas seulement pour moi, pour la majorité des habitants des pays africains, c'est beaucoup d'argent.
Aïda est donc très heureuse d'avoir décroché un emploi à l'étranger. Elle ne comprend pas tout, mais elle se dit que les choses s'éclairciront une fois sur place, vérifie le site internet de l'entreprise et décide d'accepter l'offre de sa recruteuse.
Elle me mettait la pression pour que j'arrive dans les 2 jours. Je lui ai dit que j'avais besoin d'un peu plus de temps. J'ai demandé un contrat de travail. Elle m'en a envoyé un. En une semaine, j'étais à Bangkok. Ils ont payé pour mon billet d'avion, m'avaient réservé un hôtel. Ils ne m'avaient pas dit que je devais acheter un visa, je ne savais pas. Donc en arrivant, j'ai appelé ma recruteuse. Elle m'a dit d'attendre. que quelqu'un viendrait me chercher. Je suis restée à l'intérieur de la zone d'immigration près d'une heure. Quelqu'un est venu, m'a aidée à passer les formalités, a payé pour moi, puis il m'a emmenée vers la porte principale de l'aéroport. Un minibus m'attendait. J'ai dit non, vous m'aviez dit que l'entreprise se trouvait à Bangkok. Pourquoi est-ce que je dois encore voyager ? Elle m'a répondu que les affaires marchaient tellement bien que l'entreprise avait grandi, que les bureaux de Bangkok étaient trop petits, et ne pas m'inquiéter, que les nouveaux bureaux n'étaient pas loin de Bangkok. On a passé 3 checkpoints sur la route et à chaque fois, les policiers avaient déjà ma photo. Au petit matin, ils sont venus toquer à ma porte. Je descends, je vois 3 autres Éthiopiens, 2 hommes et une femme. Ils nous ont emmenés dans une petite forêt tout en nous faisant signe que... Chut, de nous taire. J'étais terrorisée. J'avais entendu des rumeurs de trafic d'organes. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui m'a rassurée. C'est qu'une nouvelle personne nous a rejoints, une jeune femme russe. C'était étrange qu'elle soit là, mais ça m'a rassurée. On a traversé la rivière en bateau, toujours en silence, et à l'arrivée, il y avait plein d'hommes en armes. Je crois qu'ils gardaient les immeubles.
Petit à petit, Aïda prend confiance et nous confie les détails des modes opératoires du groupe pour lequel elle travaillait.
The next day, they asked me to start work.
Le lendemain, ils m'ont mise au travail. Dès que je suis arrivée dans les bureaux, ils m'ont donné un ordinateur et un téléphone. Ils nous ont dit que les téléphones personnels doivent être enfermés à clé, dans des tiroirs. La chose la plus importante, sur laquelle ils insistent beaucoup quand vous arrivez, c'est que vous n'avez pas le droit de prendre de photos, ni de vidéos, ni même de parler à vos collègues de travail. Aucune information ne doit être échangée. Je devais être une femme de type européen, avec un nom ukrainien en russe. Elle devait être une femme qui avait réussi dans les affaires, mais malheureuse, qui a souffert de la guerre. Vous devez jouer sur l'imagination, raconter une belle histoire. Vous devez être quelqu'un qui a de l'argent, du succès, mais qui a grandi dans un contexte difficile, qui a eu une enfance misérable, par exemple.
Un système d'amende très lourd est en place. Oublier son téléphone, parler avec un collègue, répandre des rumeurs négatives sur l'entreprise, tout est sujet à amende. Un système qui permet aux patrons de s'assurer qu'ils ne doivent jamais rien payer aux employés. Aïda travaille 18 heures par jour, ses journées commencent vers 16 heures et se terminent le lendemain matin pour coller aux horaires européens. Pour rencontrer de potentielles cibles, elle utilise des applications de rencontres comme Bumble ou des plateformes plus particulièrement destinées aux retraités, mais aussi et même surtout des applications qui n'ont rien à voir comme Instagram, LinkedIn ou Duolingo.
Il y avait une fille qui jouait le rôle de mannequin. Vous savez, c'est la fille russe qui est arrivée en même temps que moi. Donc ils prennent plein de photos d'elle et montent son visage grâce à Photoshop sur des photos d'autres profils qu'ils récupèrent sur Instagram, Facebook, etc. Donc nous, on a des milliers de photos à partager pour prouver notre existence dès que quelqu'un nous demande. Grâce à ces photos, on crée plusieurs profils sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, des applications de rencontres. Pas une seule application, non, sur plein de plateformes différentes. Tout doit correspondre. Il faut que ça ait l'air réel. Vous ajoutez des photos de vos vacances, de votre famille, de votre bureau, de vous en réunion, au cas où quelqu'un fait des recherches sur nous. Après ça, il faut ajouter des contacts, laisser des traces, des messages, surtout sur LinkedIn. Vous ajoutez des profils de professionnels qui peuvent vous valoriser.
Une profusion de détails, comme la possession d'un animal domestique ou l'appartenance à une religion, permet de créer du lien dès les débuts des échanges. Dans chaque groupe, un employé joue le rôle de documentaliste. Son travail consiste à trouver des images de restaurants en vogue dans les villes européennes, de fournir une mise à jour en temps réel de la météo à Londres, à Paris ou à New York, pour que les photos correspondent. Dans le groupe d'Aïda, c'est un Malaisien qui occupe ses fonctions. Il sert aussi d'interprète et d'espion, pense-t-elle, au patron chinois.
Non, we don't answer.
Les jeunes femmes russes et ukrainiennes qui jouent le rôle de mannequins doivent aussi prendre les appels vidéo, souvent exigés par les interlocuteurs. Elles travaillent pour plusieurs groupes différents et n'ont que quelques minutes pour prendre connaissance des conversations précédentes et incarner la personne à laquelle les victimes pensent parler. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, qui permet d'animer des personnages, joue de plus en plus souvent ce rôle, mais des défauts demeurent, notamment au niveau des mouvements et des doigts. Le plus important, insistent les geôliers, c'est de créer un lien affectif avec l'interlocuteur.
Ils nous donnent une liste d'instructions, étape par étape, à partir de comment se présenter, nouer contact, jusqu'à les faire investir. C'est la dernière étape. Mais avant ça, il faut les faire tomber amoureux. Pas forcément amoureux, mais il faut qu'ils nous fassent confiance. Ce qu'ils nous apprennent à faire, c'est de nous faire passer pour quelqu'un qui peut résoudre n'importe quel problème dans la vie de la victime. S'il y a bien quelque chose que m'a appris ce travail, c'est que bien souvent, les personnes qui ont réussi, qui ont de l'argent, n'ont personne à qui se confier. Ils travaillent tellement. Le jour où ils ont un peu de temps, où ils prennent leur retraite, ils se retrouvent seuls. Ils ont besoin d'une connexion affective avec quelqu'un. Et nous, on joue sur ce besoin de connexion.
Même d'un groupe à l'autre, les modes opératoires sont protégés, secrets. Les scripts chinois se caractérisent par une grande sobriété par rapport aux méthodes des réseaux de brouteurs de l'Afrique de l'Ouest. Pas de valise de billets à récupérer, pas d'héritage. Ils s'adaptent aux besoins émotionnels des victimes, relations d'amour, d'amitié ou simplement relations professionnelles valorisantes. Une règle d'or, ne jamais demander d'argent. Les agents doivent laisser entendre subtilement que leurs investissements rapportent, que leur train de vie est élevé, jusqu'à ce qu'un intérêt soit exprimé par la victime elle-même. Les groupes asiatiques pratiquent aussi la technique dite de l'engraissage du porc, qui consiste à gagner la confiance de sa victime en la laissant récupérer sa mise plusieurs fois. Lorsqu'un employé fait une grosse prise, les patrons organisent une cérémonie du gong en son honneur, au cours de laquelle son nom et les montants détournés sont annoncés publiquement. Au contraire, si des chansons de pop cantonaise se font entendre un peu trop fort en provenance du bureau des chefs, c'est qu'un esclave récalcitrant est en train de se faire corriger. En plus des passages à tabac, électrocution, brûlure de cigarettes, parfois les tortures consistent à courir, à faire des pompes ou à rester de longues heures immobiles sous un soleil de plomb par des températures qui dépassent les 40 degrés.
J'ai vu tellement de choses horribles se passer à l'intérieur. Personne n'avait l'audace même de poser des questions ou de faire quoi que ce soit. Pour eux, vous êtes des esclaves. C'est eux qui décident de tout, de façon unilatérale. Par exemple, quand vous êtes malade, disons que vous êtes malade et que vous vous évanouissez, ça arrive souvent. Ils vont déduire 300 euros de votre paie, soi-disant pour compenser le temps où vous ne travaillez pas. C'est un miracle que j'en sois sortie. J'étais absolument persuadée que je n'en sortirais pas vivante. Au bout d'un mois déjà, je m'étais résignée à mourir là-bas. En fait, c'est une idée qui m'a aidée à tenir, à réagir. Puisque j'avais abandonné l'idée d'en sortir, je n'avais plus rien à perdre. Je me demandais simplement qui annoncerait à ma mère que j'étais morte. J'ai vu tellement de trucs horribles. J'ai vu des gens se faire électrocuter, battre à mort, disparaître. Un jour, une personne est assise à côté de vous, c'est votre collègue. Le lendemain, la chaise est vide, elle a disparu. Et si vous osez demander où elle est passée, ils vous disent « Pourquoi tu veux savoir? Ça t'intéresse ?» d'un ton menaçant. Donc le jour où ils nous ont dit « Qui veut sortir ?» on s'est dit que c'était un test, qu'ils allaient nous tuer. Mais j'ai quand même dit oui, parce que je n'avais rien à perdre.
Aïda parvient à se greffer sur une opération commanditée par l'ambassade des Philippines, qui font sortir une de leurs ressortissantes gravement malade. Mais aujourd'hui, à Bangkok, elle n'a pas de papier, pas de revenus, et se trouve à la merci d'une descente de police à tout moment. Le problème dépasse de loin le simple cadre de la Thaïlande. En déplacement à Mesot, l'ancien ministre des Affaires étrangères thaïlandais, Parnpri Baidanukara, déplorait la situation et lançait un appel à la collaboration internationale.
La plus grande difficulté de ce dossier, c'est l'éclatement du pouvoir en Birmanie. On ne peut pas traiter avec nos homologues du gouvernement, car ils n'ont pas de contrôle sur cette zone. Et il y a une multitude de petits groupes armés impliqués qui changent d'une zone géographique à l'autre. Pour un gouvernement, c'est délicat de traiter avec des groupes rebelles. Je pense que nous avons besoin d'aide sur ce dossier d'autres acteurs, d'autres pays. Toute entité qui considère qu'elle a subi un préjudice en Birmanie à cause de ses fraudes en ligne peut venir nous proposer son aide, sous différentes formes, opérationnelles, techniques, financières, pour tenter de réparer le préjudice subi. Les activités illégales doivent cesser, nous sommes tous d'accord. Mais même si c'est la Thaïlande qui se trouve à la frontière concernée, ce n'est pas de l'unique responsabilité de la Thaïlande de lutter contre ces fraudes. D'autres pays doivent aussi nous aider à supporter le poids de telles opérations. C'est un énorme réseau, bien installé, dont le démantèlement demande beaucoup de ressources. L'Union européenne, par exemple, même si elle n'a pas ou très peu de ressortissants à l'intérieur, compte beaucoup de victimes de ces fraudes financières. Nous pourrions travailler ensemble. Nous avons besoin d'expertise technique. Donc, il faut qu'on puisse discuter de ces questions avec les autres pays concernés. Aucun pays ne peut arriver à lutter contre un tel phénomène seul.
Les autorités de tous les pays semblent dépassées. Le manque d'interlocuteurs judiciaires dans les zones concernées, combiné à l'embarras de certaines victimes de porter plainte, empêche de traiter toutes les affaires et d'avoir une vision d'ensemble du phénomène. À tel point que des enquêteurs privés proposent désormais leurs services, comme Marwan Warab, un ancien hacker reconverti. Moyennant rémunération, il remonte la piste des escrocs, permettant ainsi aux victimes de pouvoir déposer plainte auprès de la police avec un dossier clé en main et augmentant leurs chances de prise en charge. Il nous donne rendez-vous dans un café en banlieue parisienne. Très demandé, il court d'un rendez-vous à l'autre, remplissant un vide que les unités spécialisées de la police n'ont pas les moyens de combler.
En général, c'est pas fait. Par exemple, ce qu'on peut avoir que les forces de l'ordre n'ont pas, exemple très concret, on a remonté il n'y a pas très longtemps tout un réseau d'escrocs israéliens. Donc ces gens-là, on est allé sur leur site internet, casser le site internet entre guillemets sans qu'ils le voient, parce qu'on a pu tout remettre en ordre et récupérer juste les mots de passe qui nous intéressent pour pouvoir accéder au site internet de manière admin proprement. Et du coup, on a récupéré la liste de toutes les victimes qui sont en rapport avec l'affaire de notre cliente. Et on s'est aperçu que ce groupe d'escrocs-là, ils opéraient vraiment sur beaucoup de domaines différents. C'est le même groupe d'escrocs et on a eu affaire à 7-8 victimes différentes sur des affaires différentes.
Est-ce que la police elle peut faire ça, de traquer un mot de passe? Est-ce que non, c'est légal en fait?
Alors c'est que certaines cellules spécialisées de la police, qui en général, je crois que c'est l'OFAC qui fait ça, ou comme ça, c'est vraiment lointain. Avant d'en arriver à ce genre de cellules-là, il faut qu'il y ait au moins 200 victimes, que le préjudice soit mirobolant, etc. Donc pour le coup, malheureusement, un particulier qui a perdu quand même une grosse somme d'argent, genre 200 000 euros, qui représente quand même les économies d'une vie, il va pas avoir accès à tout ça.
Les chiffres globaux donnent le vertige. Selon de récents rapports, ce sont des dizaines de milliards d'euros qui sont détournés chaque année dans des opérations cybercriminelles. Les récents démantèlements ont porté un coup dur au réseau à la frontière thaïlandaise, mais déjà, les mafias s'adaptent, délocalisent leurs opérations vers le Laos, le Cambodge ou encore Dubaï. Les zones de jungle côté birman voient aussi l'éclosion d'une multitude de petites unités, avec des pirates de plus en plus compétents et des modes opératoires de plus en plus sophistiqués. Ces opérations s'insèrent dans de vastes réseaux de blanchiment d'argent qui redessinent les économies des pays d'Asie du Sud-Est.
Si cyberfraude et esclavage moderne, le business florissant des mafias chinoises, c'était un reportage de Carole Izou avec Annie Bro à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Bonjour Stéphanie Baroud.
Bonjour.
Vous travaillez donc pour Interpol, vous êtes analyste en données criminelles dans l'unité trafic des êtres humains et trafic des migrants. Ce reportage de Carole Izou montre comme la criminalité organisée se réinvente. Elle s'est vraiment emparée des nouvelles technologies, comme de nouvelles opportunités de se livrer à des actes criminels qui, eux, sur le fond, ces actes criminels n'ont rien de nouveau.
Oui, alors en fait, quand on parle de ce phénomène criminel, ce que Interpol a constaté, c'est que les groupes de crimes organisés ont industrialisé en fait le processus d'escroquerie en forçant des milliers de victimes de la traite d'êtres humains à escroquer en ligne. Quand on parle de la technologie, malheureusement, elle a contribué à l'aggravation de la situation, notamment lorsqu'on parle d'intelligence artificielle et de la façon dont elle aide maintenant les trafiquants, par exemple, à créer des annonces d'emploi fictives très convaincantes qui vont attirer les victimes dans des situations d'exploitation. Ces annonces deviennent de plus en plus professionnelles, de plus en plus sophistiquées, et les gens qui sont en train de chercher en ligne un boulot, qui veulent juste un niveau social, économique meilleur, vont malheureusement tomber facilement dans ces arnaques.
À votre connaissance, est-ce qu'il y a beaucoup de centres d'arnaque en ligne comme cela, des très grands centres dans lesquels on travaille comme dans des usines ?
Alors, ce phénomène de centre d'escroquerie, il y a quelques années, semblait limité en fait à une poignée de pays en Asie du Sud-Est. Mais depuis plusieurs années, Interpol a constaté que c'est une tendance criminelle qui s'est progressivement mondialisée. Par exemple, là, quand on parle de l'élément de la traite d'êtres humains, Interpol a noté que des victimes de plus que 60 pays ont été identifiées comme ayant été trafiquées vers des centres d'escroquerie en Asie du Sud-Est, avec un pourcentage d'escroquerie mondiale en augmentation. À ce jour, on peut dire que des centres d'escroquerie exploitant des victimes de la traite d'êtres humains qui sont en train d'être forcés à escroquer en ligne ont été identifiés dans plus de 10 pays hors de l'Asie, notamment en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine.
J'imagine qu'une coopération internationale est indispensable pour détecter ces fraudes et pour les prévenir. Comment s'organise la lutte ?
Alors, pour la lutte contre ce phénomène criminel, Interpol a identifié 3 mesures nécessaires. Nous devons augmenter considérablement l'échange d'informations entre les forces de l'ordre dans le nombre croissant des pays concernés par cette tendance. Deux, nous devons aussi renforcer les partenariats entre, d'une part, les services chargés de l'application de la loi et, d'autre part, les ONG et les entreprises technologiques. Et troisièmement, nous devons renforcer l'application de la loi au niveau international en multipliant les opérations multi-pays. Interpol est en fait la seule organisation capable de coordonner ces opérations au niveau mondial, que ce soit pour la lutte contre la traite des victimes forcées à commettre les escroqueries ou pour la lutte contre la propagation des arnaques en général.
Merci Stéphanie Baroud. Alors vous l'avez souligné, les centres d'arnaque en ligne, il y en a ailleurs dans le monde. Mais je reviens vers Carole Izou. On parle quand même de centaines de milliers de personnes employées dans les centres installés à la frontière birmane. Qu'est-ce que cette zone a de particulier, Carole ?
Cette zone a de particulier que depuis le coup d'État qui a eu lieu en Birmanie, donc le 1er février 2021, les zones frontières sont devenues des zones de non-droit absolu. Il n'y a pas de police, il n'y a pas de gouvernement. Et donc ça laisse le terrain libre à ces mafias pour venir passer des accords financiers avec tel ou tel petit groupe et faire absolument ce qu'ils veulent en toute impunité.
Et ces mafieux chinois qui tiennent ces centres, on sait qui c'est ? Ils sont clairement identifiés ?
On l'entend un petit peu dans le reportage, il y a des centaines, voire des milliers de groupes différents qui opèrent. Et c'est pour ça qu'il y a même un secret d'un groupe à l'autre. Donc il y a certains groupes qu'on ne connaît pas très bien, mais certains, oui, sont tout à fait identifiés. Il y a notamment le fameux Wan Kwok Koi, dit Dankassé, qui est l'une des grandes figures de la mafia 14K de Hong Kong. Il y a eu un film sur lui, c'est quelqu'un de tout à fait identifié, tout à fait connu, même si maintenant il devient... Il essaie de se donner une image d'homme d'affaires. Et puis il y a Xu Jiqiang, un autre qui est en prison en ce moment à Bangkok. Tout ça, évidemment, illustre aussi la relation un peu double qu'ont ces mafias avec Pékin, qui, comme tout gouvernement, lutte contre la criminalité, mais en même temps a toujours encouragé les réseaux d'affaires d'influence chinois à l'étranger.
Merci Carole. Revenons maintenant en France avec notre invité, Jérôme Notin. Vous êtes donc le directeur général de cybermalveillance.gouv.fr au contact des victimes de ces arnaques en ligne. Quand on a écouté ce reportage, on se dit que lorsqu'on est victime de cyberfraudeurs, il est essentiel de porter plainte, alors pour soi bien sûr, mais aussi parce que de l'autre côté de l'écran, il peut y avoir d'autres victimes prisonnières des mafias et qu'il faut donc tout faire pour mettre fin à ces trafics.
Il faut impérativement déposer plainte d'une manière générale lorsqu'on est victime de cybermalveillance, principalement pour deux raisons. La première, c'est effectivement de pouvoir permettre potentiellement de fournir des éléments techniques aux enquêteurs qui vont identifier les groupes, alors soit les individus quand ils sont tout seuls ou les groupes, là on parle de mafia, de crime organisé, et donc derrière de faire cesser l'infraction et de potentiellement effectivement mener des opérations de démantèlement et libérer ces personnes. Reportage est très poignant, évidemment. Donc la première des raisons, c'est l'identification des auteurs. Et puis, avec beaucoup d'humilité, je peux dire que la sphère, le monde public, en tout cas nos autorités, n'ont pas toujours connaissance de l'importance de ces phénomènes. Et donc de pouvoir leur apporter des chiffres de victimes avec des préjudices financiers parfois extrêmement importants peut permettre que nos moyens, à nous tous qui œuvrons dans la lutte contre la cybermalveillance, cybercriminalité, puissent potentiellement se voir grossir.
Les moyens d'enquête aujourd'hui vous paraissent sous-dimensionnés ?
L'organisation de la France, beaucoup de pays nous l'envient. On a la chance d'avoir un parquet spécialisé en cybercriminalité avec des magistrats qui font un travail vraiment extraordinaire et qui vont traiter de la petite cybercriminalité qui va par exemple être un simple envoi de SMS pour une fausse livraison de colis jusqu'à la crime organisée par des mafias comme on l'a vu là, voire des attaques étatiques. On sait aujourd'hui depuis de nombreuses années quand même, maintenant c'est public, que les États dans le cyberespace se font la guerre. Donc voilà, on a des magistrats spécialisés, on a des services d'enquête, des policiers cyber, que ce soit en gendarmerie, en police ou à la préfecture de police, qui sont bien organisés, qui sont très compétents. Mais oui, je pense que si eux-mêmes disposaient de plus de moyens et nous-mêmes, dans les aspects prévention, nous disposions de plus de moyens, on pourrait améliorer la réponse publique de lutte contre la cybercriminalité.
Alors, le ministre de la Justice est favorable à la création d'un parquet national anticriminalité organisée qui pourrait être installé au 1er janvier 2026. Est-ce que ça changerait la donne concernant la lutte contre la cybercriminalité ? Est-ce que ça aurait un impact sur cette organisation que vous vantez ?
Alors, je pense qu'il y a déjà un parquet Junalco 3 qui traite de cybercriminalité. Donc oui, il faut impérativement que dans ce PNACO, le parquet national de crimes organisés, la compétence cyber, la totalité de la compétence cyber soit rattachée à ce parquet. Parce que si je prends un exemple d'un outil utilisé, je vais essayer de pas être trop technique, mais un outil utilisé par les pirates au sens large, c'est les infostealers. Ce sont des outils qui sont installés sur les machines et qui vont récupérer tout ce que l'utilisateur va faire, ça va être saisir des mots de passe, ce genre de choses. Les infostealers, ils sont utilisés par des élèves pour compromettre des espaces de numérique de travail, c'est public, hein, pour faire des fausses alertes à la bombe. Donc un imbécile qui va utiliser un infostealer pour ça. Les infostealers, ils sont utilisés par des États pour essayer de compromettre des systèmes d'information d'opérateurs d'importance vitale. Donc le même outil est utilisé par un jeune, par un attaquant étatique contre nos intérêts vitaux. Donc il me semble assez utile de pouvoir faire que l'expertise reste centralisée dans un parquet avec une compétence concurrente nationale au sein de ce futur parquet national.
Alors, on parlait de l'importance de porter plainte. Et justement, vous pilotez cette plateforme 17cyber.gouv.fr qui a été lancée, vous le disiez en début d'émission, le 17 décembre dernier avec le ministère de l'Intérieur. Il s'agit, ce 17cyber, d'un outil en ligne qui propose de l'aide aux victimes justement qui auraient besoin de déposer plainte.
Il s'agit de l'équivalent numérique du 17. L'idée, c'est qu'effectivement, lorsque vous rencontrez une cybermalveillance, vous puissiez avoir un outil donc que nous avons lancé avec le ministère de l'Intérieur, vous faites bien de le rappeler, le 17 décembre dernier. En clair, c'est une plateforme qui accueille les victimes, entreprises, particuliers, collectivités, et qui, en quelques questions, va qualifier la menace. Une fois qu'on a qualifié la menace, entreprise victime de rançon logiciel, particulier fraude de, victime de la fraude à la réparation informatique, collectivité victime de défiguration de son site web. Une fois qu'on a qualifié la menace, donc on va donner les conseils et on va proposer, sous forme d'un Y inversé, une mise en relation lorsque la menace est technique avec un prestataire de proximité. Nous avons identifié 1200 prestataires de proximité en capacité d'aider les entreprises, les collectivités ou les particuliers, une fois de plus, si la menace est technique. Et puis la nouveauté, c'est que on est capable, sur les menaces qui le nécessitent, de proposer une mise en relation avec un policier et un gendarme 24 heures sur 24. Et là, on revient au propos initial pour l'aide à la judiciarisation. Le 17 cyber, j'en suis convaincu, va permettre à la sphère publique d'avoir une meilleure visibilité sur l'ensemble des faits de cybercriminalité.
Et donc on peut apporter une réponse en urgence quand c'est nécessaire.
Alors les policiers et les gendarmes sont en capacité d'escalader en interne, hein, il y a des procédures qui ont été faites pour ça, s'ils jugent nécessaire qu'un expert technique de la police ou de la gendarmerie soit envoyé sur place pour, alors dans notre jargon on dit la conservation de la preuve numérique, mais voilà, geler la scène de crime numérique pour qu'ils puissent collecter les preuves et ensuite alimenter les enquêteurs en éléments techniques.
Bon, sachant qu'une plainte n'est pas toujours suivie des faits, il n'est pas toujours évident en tout cas de récupérer son argent, surtout si on est un simple particulier.
La plainte a vocation à identifier les auteurs. Après, il faut aller au civil contre les auteurs. Donc, mais la puissance publique sait apporter une réponse pénale importante. J'ai évoqué tout à l'heure les fautes aux faux supports techniques. L'année dernière, un groupe a été condamné à des peines de mémoire qui allaient jusqu'à 9 ans de prison ferme. En tout cas, le chef de ce réseau d'escrocs avait été identifié par des dépôts de plainte, justement, de victimes. Et derrière, les services d'enquête ont fait leur superbe travail d'identification. La justice a fait son travail et l'a condamné à une peine très très lourde.
Et on entendait à la fin du reportage que certaines victimes se tournent vers des enquêteurs privés, mais la première recommandation, c'est quand même de s'adresser à la police et aux gendarmes.
Qui, eux, ont le droit d'utiliser des outils particuliers, tout à fait, oui.
Alors, on a évidemment envie de mieux comprendre les menaces auxquelles on est confronté. Il y a vraiment une grande diversité d'arnaques avec un but final commun, hein, c'est soutirer de l'argent. Et souvent une première étape qui est celle de récolter des informations sur vous pour pouvoir adapter l'arnaque à votre profil.
L'hameçonnage. Vous décrivez l'hameçonnage, effectivement, depuis de nombreuses années. C'est la première menace pour laquelle les particuliers, les entreprises et les collectivités viennent chercher de l'assistance sur, historiquement, cybermalveillance.gouv.fr et depuis le 17 décembre dernier, depuis sur 17cyber.gouv.fr. L'hameçonnage, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire que on va vous envoyer un message en disant le colis ne rentre pas dans la boîte aux lettres, vous avez commandé le dernier téléphone à la mode, on va vous le livrer à Marseille alors que vous habitez Lille, cliquez ici pour annuler. On va vous collecter de l'information, votre nom, votre prénom, éventuellement votre adresse, éventuellement votre date de naissance en fonction du contexte. Il y en a plein, je ne vais pas toutes les détailler, l'arnaque à la vignette critère, Amélie, les impôts qui doivent de l'argent mais qui n'ont pas vos comptes bancaires, donc vous devez rentrer votre numéro de carte. Voilà. Phase initiale, je collecte de l'information et ensuite je vais l'exploiter. Et je vais l'exploiter depuis maintenant 2 ans, on voit une augmentation extrêmement importante des faux conseillers bancaires qui peuvent être opérés par des gens dans des centres d'appel, des faux conseillers bancaires qui vous disent « Ah, là, vous êtes bien monsieur un tel ou madame un tel et votre numéro de carte se termine bien par 4712. Eh bien là, il y a des actions frauduleuses sur vos comptes. Ne vous inquiétez pas, on va vous aider à changer votre mot de passe, on va vous aider, puisque votre compte a été piraté, on va vous aider à annuler toutes les transactions. » Et là, on a bien compris que c'est là où, en fait, on rentre dans le piège.
Mais c'est effectivement assez facile de tomber dedans.
Tout le monde peut être victime de cybermalveillance. Il y a quelqu'un pour qui j'ai énormément d'admiration, c'est Xavier Linetti, qui était à la justice, qui a dit une fois, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où on est tous potentiellement victimes. On est quasiment tous utilisateurs d'outils numériques et le simple fait de recevoir un message d'arnaque, une tentative, on est victime. Heureusement, on n'a pas tous été victimes de cambriolage, de vol de voiture, de violence physique. Donc voilà, c'est quelque chose de très important. On peut être victime, alors certaines personnes sont plus fragiles et peuvent être victimes d'arnaques à la romance, d'autres un peu moins méfiantes justement sur le SMS et derrière être victime d'infos conseillers bancaires, d'autres encore sur la fraude à la réparation informatique, je reste sur mon exemple. Donc voilà, c'est quelque chose de très important. Après, l'idée c'est pas de faire peur, c'est de dire... Soyez un petit peu vigilants, essayez de transposer ce que l'on vit sur Internet dans la vraie vie. Est-ce que c'est légitime que je donne mon numéro de carte à quelqu'un que je ne connais pas? Est-ce que la banque est supposée me demander des codes ou mon mot de passe? Non. Avec un petit peu de vigilance et un peu de sensibilisation sur cybermalveillance.gouv.fr où on trouve toutes les ressources pour se protéger, en tout cas être méfiant, ou en tout cas avoir les bons conseils, je pense qu'on peut quand même se protéger.
Alors, vous mentionniez l'arnaque amoureuse. On a évidemment en tête la fameuse affaire au faux Brad Pitt qui demandait de l'aide à une Française qui a été arnaquée de 830 000 euros quand même. Alors, certains sourient en disant effectivement qu'elle était très naïve. Mais quand même, il faut souligner que ces fraudeurs ont une vraie connaissance de la psychologie humaine et savent bien utiliser tous ces ressorts psychologiques.
Cette personne a eu énormément de courage de témoigner. Effectivement, elle a été beaucoup raillée sur les réseaux sociaux et c'est extrêmement dommage. Et je le disais tout à l'heure, tout le monde peut être victime, donc peut-être pas à l'arnaque à la romance, mais on peut être victime d'autres arnaques. Donc c'est ridicule et extrêmement stupide que de se moquer de gens qui ont ce courage de témoigner. Vous avez eu des témoignages dans votre reportage. Bravo, parce que c'est pas toujours très simple de rencontrer ces victimes et qu'elles acceptent d'expliquer ce qu'elles vivent. Oui, on peut effectivement, en tout cas sur une grande majorité des arnaques, l'aspect psychologique est important. Souvent, c'est l'urgence, des actions frauduleuses sur votre compte. Ça peut être l'appât du gain. On a beaucoup de, en tout cas, certaines personnes sont victimes d'arnaques aux crypto, en tout cas aux faux placements financiers. Donc, le ressort psychologique, évidemment, est toujours, enfin, dans la majorité des cas, utilisé.
Les crypto-monnaies, c'est un outil très souvent utilisé.
L'arnaque à la crypto-monnaie, c'est un outil souvent utilisé parce que les gens ont parfois un petit peu de mal à comprendre justement le fonctionnement des crypto-monnaies. Et puis surtout, les médias, alors pas chez France Culture, mais les médias ont beaucoup dit la volatilité des crypto-monnaies. On peut, entre guillemets, se faire de l'argent facile. Ça peut attirer certaines personnes qui veulent, un simple placement financier, gagner facilement de l'argent.
Ce qui est surprenant aussi, c'est de voir que les escrocs n'hésitent pas à investir du temps, parce que parfois, l'escroquerie, elle se met en place sur des semaines, voire des mois.
Elle se met en place parce qu'ils ont le temps, ils ont de l'argent, et c'est leur métier. Donc, ce sont pas des bénévoles, on l'a bien vu dans le reportage, il y a toute une organisation. Donc, ils vont traiter N victimes au même moment. Ce sont des gens qui se relaient, il y a tout un historique justement des conversations qu'ils savent faire. C'est pas une personne qui est en train d'arnaquer une personne, c'est tout un groupe bien organisé, avec des plannings, qui, donc, comme je viens de le dire, ont un historique. Donc, ils ont le temps. Et c'est leur, enfin, même s'ils n'ont pas de fiche de paye, c'est leur activité professionnelle. Et quand on réussit à arnaquer des dizaines, des centaines de milliers d'euros à une personne, ça fait vivre plusieurs personnes, que ce soit en France d'ailleurs, puisque certains sont évidemment basés en France et localisés en France. Donc, que ce soit en France ou à l'étranger, avec plusieurs centaines de milliers de personnes, on fait vivre plusieurs mois plusieurs personnes.
Ouais, vous dites on a affaire à des professionnels et des spécialistes. D'ailleurs, ils se répartissent les tâches. Avec le spécialiste développeur, le spécialiste du blanchiment d'argent, le spécialiste de...
Sur beaucoup de menaces, si vous dites développeur, donc je peux parler des rançongiciels, qui sont quand même très critiques pour les entreprises ou les collectivités qui en sont victimes, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous avez un groupe qui va récupérer la capacité d'accéder à travers un login mot de passe à un système d'information. Vous allez avoir un autre groupe qui va développer le petit logiciel qui va permettre d'aller chiffrer le système d'information. Et vous avez donc un troisième groupe qui va acheter ces deux, parce que c'est de la prestation, ils vendent des choses entre eux. Donc le couple le login mot de passe, le petit logiciel, il va rentrer dans le réseau, il va cartographier, détruire la sauvegarde, exfiltrer les données, chiffrer tout ça et demander la rançon. Et c'est pour ceux qui payent, eh bien ensuite il va avoir cet argent qui va renvoyer vers un autre groupe qui va blanchir l'argent. Donc du crime organisé, on l'a dit en introduction, sur les rançons logicielles c'est le cas. Et puis dans le reportage évidemment, il faut des gens qui gardent ces prisonniers, il faut des gens qui les nourrissent, il faut des gens qui fassent de la maintenance de leurs ordinateurs. Donc c'est toute une économie parallèle très liée au type de menace.
Économie très rentable qui fait qu'ils sont même prêts à investir de l'argent. Vous misez une certaine somme, vous en recevez plus, donc vous vous dites « ah bah ça y est, c'est une bonne affaire ». Vous êtes mis en confiance et là vous allez perdre la fois d'après.
On va perdre la fois d'après, alors ça c'est plutôt sur l'arnaque à la crypto-monnaie, et on va perdre la fois d'après sur une deuxième peine, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous avons été victimes l'année dernière, en juillet et en décembre dernier, des victimes sont venues, nous ont contactés pour nous dire que elles avaient été victimes dans un premier temps quelques mois plus tôt, et que des agents se faisant passer pour cybermalveillance allaient les aider à recouvrer leur argent, mais que pour cela il fallait remettre quelques milliers d'euros, certains l'ont fait malheureusement. Et donc voilà, on a été victime d'une arnaque à la crypto-monnaie en janvier 2024. En juillet 2024 et en décembre 2024, on est à nouveau victime parce que des gens se faisant passer pour des agents de notre dispositif recontactent, ils gardent les fichiers clients, hein, ces gens-là où ils se les revendent. Donc voilà, recontactés pour à nouveau être arnaqués.
Donc ça effectivement c'est terrible, c'est pas parce qu'on a été escroqué une fois qu'on est vacciné et qu'on ne retombera pas dans le piège. Il y a d'ailleurs un article dans Le Monde au sujet de ce type d'arnaque.
Toute une série d'articles actuellement, oui, tout à fait.
Oui, qui sont très intéressants. Donc, c'est important de savoir, donc c'est l'une de votre mission que de sensibiliser le public, de faire de la prévention, et donc de faire comprendre, on le disait, que tout le monde est concerné. Quels sont les premiers messages que vous essayez de faire passer pour justement donner l'alerte et que les gens restent vigilants?
Si on doit mener une action en urgence, il faut prendre le temps. C'est peut-être un peu curieux de le dire comme tel, mais voilà.
On peut laisser passer une opportunité, c'est pas si grave.
Exactement, voilà. Vous le dites mieux que moi, vous êtes journaliste, bravo. Typiquement, si j'ai un super article que je vois par rapport à un vendredi noir ou avant les fêtes, je prends le temps de me renseigner sur le site web qui me vend le produit, prends le temps de me renseigner sur effectivement est-ce qu'il y a des commentaires sur une autre plateforme qui me disent ça c'est une arnaque ou pas une arnaque. Je pense à une bougie par exemple très à la mode. Voilà, parce qu'on a aussi des faux sites qui vont vous inciter à saisir vos données personnelles, lesquelles données personnelles vont ensuite être exploitées. Donc voilà, la vigilance, prenez le temps. Venez régulièrement sur cybermalveillance.gouv.fr où on essaye de publier justement des contenus et des alertes très liés à la menace, en tout cas à la tendance de la menace actuelle faite par les cybercriminels.
Vous allez faire aussi de la sensibilisation auprès des jeunes, hein, des collégiens, des lycéens?
On a la chance d'avoir été contacté il y a un petit peu plus d'un an par le ministère de la Justice justement pour être associé avec eux, le ministère de l'Intérieur, et le ministère de l'Éducation nationale. On a fait une opération qu'on a nommée opération Cactus, qui avait vocation à faire comprendre que l'hameçonnage c'est important, donc hameçonner les élèves, les collégiens, les lycéens. On l'a fait dans une petite zone de la France, on va l'étendre sous peu et je n'en dirai pas plus.
Merci Jérôme Notin. Merci également à Stéphanie Baroud d'Interpol. Et puis deux adresses à retenir, cybermalveillance.gouv.fr et 17cyber.gouv.fr. Cyberfraude et esclavage moderne, le business florissant des mafias chinoises. Le grand reportage de cette semaine était signé Carole Izou avec Annie Bro à la réalisation. À la technique d'Alia, au web Caroline Beneteau. Merci à Patricia Miura et Véronique Le Faller pour la documentation. Pour réécouter ou partager cette émission de la rédaction, rendez-vous sur l'appli Radio France ou sur franceculture.fr.